Raphaël Beau, Salman Azar ou La brillante imposture, roman d'après une histoire vraie. Au tout début du XVIIIe siècle, un jeune vagabond répondant au nom étrange de Salman Azar affirme être un Japonais et parvient à berner par sa supercherie toutes les sociétés savantes d'Angleterre et des Provinces Unies. Aujourd'hui oublié de tous, l'histoire vraie de cette incroyable imposture nous est rapportée par son valet et ami qui dresse la chronique intime et sincère de ce prodige emmuré dans une vie de mensonges et de solitude. Mon maître naquit près d'Aix-en-Provence, dans le village de Beaurecueil, à 2 lieues plus à l'est. Sa famille, de bonne mœur mais sans fortune, vivait fort petitement. Son père, dont je reparlerai plus tard, fut l'un de ces protestants de la Provence que l'édit du roi força, au soir de notre ancien siècle, à abjurer la foi évangélique pour devenir catholique. C'est sous l'égide de cette église que son père et sa mère firent baptiser mon maître à sa naissance. Pourtant, son père dut persister sans doute à pratiquer son culte, trompant son monde comme quelques autres sous les dehors d'une nouvelle foi qui n'avait pas pénétré son cœur. Les temps étaient plus troubles alors, et comme on le sait, c'était aux galères qu'étaient envoyées ces sortes d'indécis qui ne savaient sur quel pied danser. On ne survivait guère plus de 3 années en service sur mer à faucher le Grand Pré, si bien que sous la menace de cette misérable sentence, pendu au fil fragile des médisances, il s'enfuit bientôt en Allemagne et s'établit à Cologne pour entrer en compte à 2 avec un cousin, laissant sa femme et son fils à leur sort quand celui-là avait à peine 5 ans. De tels abandons de famille survenaient en ces temps de grand désordre, quoique la question religieuse ne servît parfois que de moyen, ou ne fût pas en tout cas le premier dessein. Car il serait juste de trouver fort discordant que le culte tint séparé des maris de leurs femmes et des parents de leurs enfants. Fût-ce la foi de son père qui l'exila en Allemagne, ou ne fût-elle que l'argument de sa fuite, mon maître ne s'étendit point à le démêler. Sa mère, femme simple et pieuse qui avait dû pour elle épouser la foi catholique de meilleure grâce, se trouva ainsi sans la moindre rente de son mari. Mon maître me parla beaucoup d'elle ce soir-là, et bien souvent encore par la suite. Plus le temps passait et plus il redoutait de ne la revoir jamais. Or, c'est bien ce qui plut au ciel, car dès lors qu'il intégra le régiment de Bourvald qui devait l'amener à l'écluse, il ne revit jamais le royaume de France. Sa mère, qui nourrissait pour lui un amour et une inquiétude sans bornes, appela peut-être son fils, Dieu le sait, au jour de sa mort, ignorante du destin qui fut le sien, et mon maître toujours garda pour cette idée la plus noire amertume. Après le départ du père, la mère fut d'abord la domestique d'un laboureur de Beaurecueil qui ne fut pas bon avec elle. Ainsi, c'est avec peine qu'elle parvenait à les nourrir tous deux. Dépenses faites du boire et du manger, il ne leur restait rien. Or, il n'était pas rare que les bons frères mineurs vinssent au secours d'une pauvre femme, comme veuve avec un fils à charge. Par quelques justes coups de dés de la fortune, deux pères franciscains qui enseignaient dans un petit couvent d'Aix proposèrent que mon maître leur fût confié. Personne ne fit là une mauvaise affaire. Mon maître, fort jeune, ne signalait déjà pas ses adresses à l'étude. Il avait en effet appris à lire de soi-même, à l'appui d'une simple Bible, et les franciscains jugèrent que c'était signe qu'il était en grande faveur auprès de Dieu et qu'il saurait faire bon usage de leur enseignement. Sa mère, qui avait bien sujet à être contente de son fils, et certaine de la carrière ouverte devant lui, leur adressa mon maître qui bientôt sut entendre, parler et lire le latin. À l'âge de 7 ans, il excellait déjà à cette lecture et dépassait de haut l'ensemble des élèves pourtant de 4 à 8 ans ses aînés. Aucun n'allait en esprit plus vivement que lui. Durant les 2 années qui suivirent, la fierté des 2 moines franciscains ne fut pas la seule que ses excellentes capacités nourrirent. Elles grossirent aussi sa vanité, comme il était incessamment loué par eux, car l'orgueil s'était joint, hélas, à tous les dons heureux que la nature lui avait faits. Mon maître, des années plus tard, s'entretint souvent de cette question avec moi. Il jugeait que tous ces encensements qui avaient livré à sa modestie tant d'assauts pressants avaient marqué le commencement de toute l'affabulation dont il allait se rendre coupable par la suite. C'est en me confiant, me disait-il, au bon soin du Seigneur qu'on m'a précipité dans une vie de mensonges. Du haut de sa croix, Jésus ne manqua point d'ironie.